À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de Saint-Vincent Palotti, Vincenzo Palotti, si on veut le donner son nom en italien, car c'est un prêtre de Rome, mort il y a 150 ans, en 1850, et qui a été le précurseur de l'Action catholique. C'était un homme instruit dans le dictionnaire de spiritualité, qui est un immense dictionnaire en je ne sais combien de volumes. On rapporte bien que cet homme était d'une grande culture et il avait l'âme du curé d'Ars. On le compare aussi à Saint-Vincent de Paul, son patron, puisqu'il s'appelait Vincent Palotti. Palotti, c'est P-A-2-L-O-2-T-I, Palotti. Il avait donc une immense culture. Il avait de grands contacts en même temps avec l'homme de la rue, des confesseurs du pape et des cardinaux. Il restait dans son confessionnal des heures et des heures, c'est ce qui l'a fait mourir jeune d'ailleurs, à 55 ans, le pauvre malheureux. Et il avait fait de si bonnes études que l'on rapporte que... Il a étudié non seulement la philosophie, la théologie, mais aussi les sciences naturelles et quantité d'autres choses qui peuvent nous surprendre à prime abord, parce que sa culture vaste ne l'empêchait pas d'être un homme de cœur. On a publié dans Le Devoir, il y a à peine quelques jours, au mois de janvier, l'intelligence du cœur. Puis on dit longtemps perçu comme un défaut gênant, voire une faiblesse. L'émotion est maintenant élevée au rang d'aptitude essentielle à la prise de décision intelligente dans les milieux d'affaires. Bien à plus forte raison dans les milieux religieux, comme vous le verrez aujourd'hui, mais dans l'action pastorale de ce prêtre exceptionnel, Vincent Palotti, canonisé en 1962. À la veille de son ordination, il a écrit dans son journal « Je prie Dieu de me donner à moi et à tous, dans le monde entier, un amour ardent et si possible infini. » Infini. Il n'y va pas de main morte. Hein? Infini. C'est, il dit même, « Seigneur, t'aimer infiniment et mourir. » T'aimer infiniment et mourir. Vous direz que c'était un saint, puis il pouvait bien dire des choses qui dépassent tout entendement. Oui, d'accord, dans un sens, si on veut. Les saints font honneur, évidemment, à l'humanité, hein, parce que dans la plénitude de leur offrande, qui les comble, ils sont au firmament de cette humanité. C'est eux qui la font, l'humanité, au fond. Plus j'y pense, plus je me dis que... Quand on n'est pas un saint, me semble qu'il manque l'essentiel de ce que nous sommes faits et de ce que nous devons être. Quand on voit l'abbé Vincent Palotti dans les rues de Rome, on raconte qu'il avait l'air petit et malingre, avec de beaux yeux bleus d'un bleu profond, légèrement courbé, avec une belle tête fine et noble. Il portait de grosses chaussures de paysan, en dépit de sa culture, et un chapeau innommable, qui n'en avait même plus la forme. Si une femme l'accoste, eh bien, il lui demande l'aumône, et il s'arrête, et puis, oh, il enlève son chapeau, il la salue doucement, respectueusement, comme une reine, mais si la femme reste interdite, elle quête. Alors elle se met en confiance, puis elle lui raconte ses malheurs. Et c'est son apostolat sacerdotal. Et puis, elle le remercie pour les quelques soldes, il a les petites pièces de monnaie qu'il lui a données. Et selon la coutume italienne, elle essaie de lui baiser la main. Connaissez-vous ça? On embrasse la main des prêtres dans l'Italie autrefois, et en Espagne, j'ai vu ça aussi. J'aimais bien baiser la main des prêtres comme ça, parce que C'est la main qui nous baptise, hein, c'est la main qui nous absout de nos péchés, c'est la main qui tient le pain et qui consacre au corps du Christ, et le miracle s'opère dans ses mains, les mains du prêtre. Et c'est cette main qui bénit nos mariages, que nous nous donnons nous-mêmes. C'est la main qui fait des onctions sur notre corps pour nous préparer la mort, ou du moins peut-être pour nous guérir, le sacrement des malades. Oui, c'est la main qui nous absout de nos péchés, quoi. Alors, au lieu de la main du prêtre, qu'est-ce qu'elle trouve, la pauvre femme? C'est une médaille, la Madonnina. Et il l'offre en souriant. Et il lui dit, cette mendiante, Dieu vous bénisse, bonne femme. C'est son stratagème habituel. À qui veut lui baiser la main, il tend discrètement sa Madonnina, sa Madone, la petite Madone, Madonnine. Qu'il porte toujours dans sa manche, c'est un peu comme un magicien. Et lorsqu'il était petit garçon, d'ailleurs, il avait déjà commencé à vouloir devenir un saint, et il allait s'agenouiller devant une image de la Sainte Vierge, puis il lui disait candidement, « Maman, maman, faites de moi un saint. Faites de moi un saint. » Il est exaucé. Il le dit, puis il le répète avec tant de ferveur, que sa mère en est émue, et le petit Vincent, notre qui tenir, dira souvent, se frappant la poitrine, « Le Seigneur m'a donné de saints parents. » C'est vrai qu'il avait de saints parents. C'est pour lui un motif de confusion, car il se croit le dernier des pécheurs, et toute sa vie, jusqu'à sa mort, il se verra pécheur. Et c'est le propre dessein, je crois, d'être si près de Dieu, de se rendre compte de l'immensité, de la beauté, de la splendeur de Dieu, et de sa miséricorde, et de sa grandeur en même temps, que il voit toutes les tâches qui recouvrent leur âme. Hein. Ils ont beau savoir que Dieu les aime et qu'ils seront avec lui, ils se voient très indignes. L'humilité de Vincent Palotti a hein, quelque chose d'un peu spécial, un peu déroutant même. Et nous autres, pauvres gens, comme le dit Maria Wenowska, qui piétinons sur place et sommes tellement remplis de nous-mêmes, ben nous n'arrivons pas à comprendre certains des gestes de Vincent Palotti, certains actes de ses saints, d'une sincérité déchirante, hein, et qui semble faire fi de la vérité. Lui qui n'a jamais perdu son innocence, celle qu'il a reçue au baptême, là, d'après son directeur, qui a peut-être été un peu indiscret, pas du tout, se croit non seulement pécheur, mais le dernier des pécheurs. Ça surprend un peu dans la bouche de ces saints, mais je comprends au fond. Je crois que je commence de loin à comprendre, à les fréquenter. Mon Dieu, dit-il, combien de simples paysans, combien de sœurs converses, les petites sœurs là qui n'ont pas fait d'études, en général, et de pauvres artisans, que l'on estime guère d'habitude, dit-il, vous aime réellement, tandis que moi, je ne vous ai jamais aimé. Il y a le sentiment de n'avoir jamais aimé Dieu. Cet accent ne ment pas. Moi, je crois ce qu'il écrit, puis il le croit lui-même, j'en suis sûr. Un an avant sa mort, d'ailleurs, lorsqu'il est comme une torche embrasée d'amour, je vous en parlerai tout à l'heure, il se considère comme le principal obstacle de tout le bien qui ne se fait pas. Et il se croit coupable de tout le mal qui se fait. C'est un peu comme un délire. Mais c'est le délire d'un saint. Vous savez, on peut dire qu'il exagère. Ben, je ne crois pas qu'il exagère. Il faut essayer de comprendre ça de l'intérieur. Hein. Ses aveux qui font frémir, d'accord, moi je suis premier à frémir, je le cache pas. Mais ça le situe sur le plan exact de son appel et de sa sainteté. Parce que Vincent Palotti, ce prêtre, est doué d'une rare intelligence. Il est illuminé par l'Esprit-Saint. Il passe toute sa vie à creuser le sens, puis l'imminente dignité de sa vocation de prêtre. C'est un prêtre à plein. Et il y a des vertiges que seuls connaissent les saints, me semble. Je ne sais pas ce que c'est la sainteté personnellement, mais les saints prêtres, je crois qu'ils savent ce que c'est eux. Bon, je ne suis pas prêtre, je vous le répète. Il y a des gens qui pensent que je suis prêtre. À 15 ans, Vincent Palotti, là, est tellement déjà un garçon merveilleux que personne ne doute qu'il se fera prêtre. Hein. Mais on se demande si ça va être dans un ordre religieux, puis Vincent rêve aux Capucins, tiens. Mais son confesseur dit non, et c'est pour lui une rude épreuve que d'obéir à ce confesseur. Il se croit appelé à une vie complètement cachée, retirée, pauvre. Mais Dieu a bien d'autres vues et lui demande le sacrifice de ses plus belles aspirations contemplatives qu'il aurait pu pratiquer chez les capucins de l'époque qui étaient très contemplatifs tout en étant actifs pour le promouvoir au rôle d'un des plus grands révolutionnaires de son siècle. Révolutionnaire, oui, vous allez voir, il est le précurseur de l'action catholique. L'Église, qui est éprouvée de façon bien triste à cette époque, a besoin de lui. Alors, il a fait des études, comme je dis, il étudie au collège romain, qui périclite à cette époque, et puis à la Sapiens, à l'université. Et en même temps, il prend ses grades, là, combien plus difficile, à l'Académie de l'Esprit-Saint, et Santo Spirito. Puis, nous avons de cette époque son journal intime, qu'il appelle « Le livre de mes lumières », qui est destiné à son confesseur et qui marque les étapes de son ascension. Son confesseur s'en sert pour le guider. Il se sent écrasé par la sainteté de Dieu, comme je vous disais tout à l'heure. Et dans son vocabulaire, là, les termes qui expriment les attributs de Dieu, là, infini, ineffable, incompréhensible. Mais celui, ce Dieu, qui habite dans une lumière inaccessible, qui sont comme des ténèbres pour nos esprits créés, mais tout ça se presse, se chevauche et s'accumule. C'est digne de saint Paul dans un sens. Et quoi d'étonnant que dans cette espèce de confrontation fulgurante, là, Saint-Vincent Palotti se sente néant et péché. Ce serait la pente au désespoir s'il n'y avait, disons, ce pont lancé par l'amour au-dessus de l'abîme, car c'est un prêtre de l'amour. Et cet amour, c'est pour lui Jésus-Christ qui l'appelle, qui le soutient et qui l'aime. Peu de contemplatifs ont éprouvé avec une égale violence, on pourrait dire, la tension crucifiante entre l'infini puis le fini, entre Dieu et nous. Hein. Et cet infini puis ce fini qui s'unit d'ailleurs dans le mystère de l'incarnation. Et c'est pour ça qu'il est très près de Jésus. Et je crois que dans cette épreuve douloureuse et vivifiante qu'il faut chercher, c'est là la clé de toute la vie spirituelle de Saint-Vincent Palotti. Et aussi de son étrange, de son immense humilité. Il se sent néant parce qu'il éprouve, il s'éprouve créature jusqu'au dernier repli de son être. Il est suspendu à cette parole du Créateur qui l'a fait. Et puis, il est suspendu à Dieu, attaché à Dieu. Il se sent péché. Oui, comme s'il était péché. Car tout est souillure dans cette lumière inexorable de Dieu, c'est sa façon de voir les choses. Un jour, il dit à ses fils, parce qu'il a fondé les Palottins, oh, ils n'étaient pas nombreux quand c'est mort, il dit, un grand dévot de Marie non seulement sera sauvé, mais deviendra par son intercession un très grand saint, et sa sainteté grandira de jour en jour. Et il dit aussi, dans une lettre, il a 23 ans, il a été ordonné à 23 ans, 1818. Il annonce son ordination, puis il dit, « Dans sa miséricorde infinie, Dieu a daigné m'élever à l'insigne honneur du sacerdoce, moi qui ne suis que poussière et néant, et pour lui rendre grâce. Alors, mon ami, récite avec moi le Magnificat. Dis à d'autres d'en faire autant. Oh, combien grande est la dignité sacerdotale. Combien grande et combien auguste. Oh, si l'on savait ce que cela veut dire être prêtre. Oh, mon Dieu. Cela me dépasse. Offrir le sacrifice de la messe, administrer les sacrements, réciter tous les jours le bréviaire en esprit de sacrifice et de louange. Oh, mon ami, tâchons de persuader les prêtres de vraiment bien faire ces trois choses, la messe, les sacrements, le bréviaire. Nous allons faire une pause pour écouter un peu de musique. c'était évidemment le Psaume Miserere de Donizetti, interprété par le chœur et l'orchestre slovaque. C'est la partie de la Tchécoslovaquie qui a recouvré son indépendance récemment, n'est-ce pas, la Slovaquie, le chœur et l'orchestre slovaque. Ce psaume nous dit, ô Dieu, toi qui es bon, toi qui es si bon, aie pitié de moi. Toi dont le cœur est si grand, efface mes désobéissances, lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de ma faute. C'est un des plus beaux psaumes. Alors nous sommes dans une des plus sombres périodes de l'histoire de l'Église au moment où il est ordonné. Il y a un vent révolutionnaire qui balaie non seulement les structures sociales, qui ont l'air bien périmées à l'époque, mais aussi les plus authentiques traditions religieuses sont renversées. Vous savez, c'est pas d'aujourd'hui que ça se renverse et que ça se reconstruit, tout ça. Il faut jamais perdre. Je vous prépare des émissions l'an prochain pour vous donner beaucoup d'espérance dans l'avenir du christianisme. Vous allez voir. Alors, j'ai toutes sortes de choses à vous dire l'an prochain. J'espère que je serai toujours en vie pour être là pour vous aider un petit peu si je le peux. Alors, c'est une période de transition à ce moment-là, là, vers 1820. Il y a un monde qui meurt, puis il y en a un autre qui naît douloureusement. Et comment séparer le bien du mal dans tout ce brassage universel? Alors, l'abbé Palotti n'est pas pour les solutions simplistes, lui. Il ne fait pas de politique. Il sait une chose. Hein? Une chose. Écoutez ça, vous les jeunes gens là, qui pourriez m'écouter, pourriez devenir prêtre. Écoutez, avec des oreilles. Oui, des oreilles bien ouvertes. Ses mains consacrées portent des trésors. Elle porte ses mains consacrées de prêtre de quoi convertir un monde qui est en chute et qui est en difficulté. Non pas demain, mais tout de suite, des mains de prêtre, ça peut agir tout de suite. En commençant par la tâche qui s'impose à lui, à tout instant. Et depuis le jour de son ordination, ce saint prêtre, Vincent Palotti, se sent personnellement responsable devant Dieu de chaque âme qu'il côtoie, ces saints prêtres. Et le recteur de l'université La Sapienza, il confie le poste de répétiteur, il est tout jeune encore, c'est une corvée, mais qui le met en contact avec les jeunes et Don Palotti, Don, comme on dit en Italie, hein, au lieu de l'abbé. Il a deux doctorats, comme je l'ai dit. Il a le don de la clarté. Et les étudiants l'adorent, puis il est très jeune encore, tout feu, tout flamme. Il voudrait les mener à la sainteté tambour battant. Certaines critiques pour ce zèle outré. Oui, jeune prêtre qui avait du zèle, ce n'est pas outré. Pourtant, les plus belles vocations naissent et mûrissent dans ce climat ardent. Quand les jeunes voient ça, ils s'attachent instinctivement à qui ne doute pas de leur générosité. Hein? Oui, appelez les jeunes, ils vont venir, si votre âme est de feu. Mais ses plus belles conquêtes datent du jour où Don Palotti commence à prêcher des retraites. En quelques mois, il s'acquiert le renom du meilleur prédicateur de Rome. Et pendant tout ça, il se rend bien compte qu'il n'a rien d'un orateur en vogue et il n'est pas dans le genre de Bossuet, si on peut dire. Il n'utilise pas de trucs d'éloquence, il est d'aspect plutôt chétif, je vous l'ai dit. Il s'impose pas, mais chacune de ses paroles, chacun de ses gestes est un acte de foi et d'amour. Hein. Il s'engage à fond, il se donne tout entier. Il répand la flamme qu'il consume. Et c'est la contagion. Son secret, le secret de ce prêtre, les nuits passées devant le Saint-Sacrement. Les jeûnes au pain et à l'eau, comme le recommande, dit-on, la Vierge de Medjugorje. Dures auxiliaires, dit-on, mais combien efficaces dans son cas. Le Seigneur lui-même les a recommandées, paraît-il, hein? Me semble. Mais hein? Seuls les saints ont le courage de s'en servir. Le confessionnal l'absorbe de plus en plus. Il a à peine 33 ans lorsqu'il est nommé confesseur attitré du séminaire de Rome et il remplit ses fonctions durant 13 ans. Il devient aussi confesseur du collège des missions. Directeur incomparable, très, très, très respectueux du mystère des vocations, sont très diverses. Mais il se fait tout à tous. C'est plutôt un serviteur qu'un maître des armes. Il leur dit « Sanctifiez-vous », écrit-il dans une de ses lettres à un jeune savant. Écoutez bien ça, il écrit à un jeune savant. C'est très surprenant. « Sanctifiez-vous, mais de la façon dont Dieu vous veut saint. Vous n'êtes pas fait pour le silence et les austérités des trappistes ou des anachorètes auxquels vous pensez. Sanctifiez-vous donc au milieu du monde, en maintenant vos relations sociales, dans votre travail puis dans vos loisirs, dans votre chaire de professeur, et en contact avec les pécheurs et les publicains, car la vraie sainteté, c'est tout simplement de faire en toute chose la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. » En somme, comme on voit, ce prêtre a le don du discernement des esprits, et plus d'un de ses pénitents, plus ou moins réticents, plus ou moins honteux, est parfois, écoutez bien ça, dispensé de certains aveux difficiles. Il n'est pas obligé de dire ses péchés. Pourquoi? Parce que lui, il le fait à la place du pénitent, tellement il a une lucidité inexorable, comme le curé d'Ars, il raconte les péchés de son pénitent. C'est fantastique. Absolument phénoménal. Son zèle le plus ardent allait aux prêtres dont le niveau spirituel laisse un peu à désirer, car il les aime. Don Palotti leur propose la sainteté, tout simplement. Non pas comme un idéal vaguement entrevu, mais comme une obligation. Il va jusqu'à dire qu'un prêtre qui n'est pas entièrement voué à la gloire de Dieu et au salut des âmes est fort en danger de se damner. Et il dit aussi qu'il vaut mieux ne pas être prêtre qu'un prêtre médiocre, sans vertu et sans savoir. Alors, je pense à certains jeunes prêtres plein de désir de servir. Il y en a un à la cathédrale, je le salue. Il me téléphone à l'occasion pour m'encourager, je tiens à l'encourager. Il se reconnaîtra. Il y en a d'autres à la cathédrale. Il se fait du sacerdoce prêtre une idée si belle. Et il lui porte un tel témoignage au sacerdoce que ses confrères subissent la contagion, on peut dire, puis ils emboîtent son pas, ils le suivent. Ou bien, d'autres lui vouent une haine sans merci, ils n'acceptent pas. C'est ce qui arrive en l'église dite de Santo Spirito, une église plutôt napolitaine qui est à Rome. Elle a une mauvaise renommée. Alors, tout ça périclite dans cette paroisse. Ça détermine son choix. On lui avait offert Santo Marco, une paroisse cossue de tout repos. Il la refuse pour se vouer corps et âme pendant 10 ans au relèvement d'une paroisse dont les mauvais prêtres prêtent à scandale. Il y arrive avec sa ténacité très douce. Pendant 10 ans, il est en butte aux plus pénibles chicanes et aux persécutions. Bon, les plus outrageantes, Les anciens maîtres de la paroisse veulent s'en débarrasser. Ils lui rendent la vie intenable. Ils essaient de le compromettre, de fermer à clé son confessionnal, d'empêcher les offices religieux, même, qu'il veut célébrer. En lisant tout ça, c'est épouvantable. On se demande comment Don Palotti a pu y tenir 10 ans de ce martyr silencieux, 10 ans sans la moindre plainte, sans un appel à des amis puissants, là, parce qu'il connaissait des cardinaux, qui en un clin d'œil aurait pu changer la situation. Pour le comprendre, il faut recourir à la science des saints, je pense. Et quelques mois avant sa nomination pour Il Santo Spirito, Don Palotti écrivait dans son journal, « Oh mon Dieu, révélez ma malice à toutes les créatures et faites que toutes les créatures, pour votre honneur et ma confusion, se rebellent contre moi, me frappent, me torturent, m'humilient parce que moi-même, je suis une vile créature. Oh mon Dieu, je vous ai offensé et blessé si souvent. » Il est exaucé à la lettre, et n'oublions pas que les âmes innombrables qu'il a prises en charge, ça a été très lourd. Il a faim et soif de la croix, curieusement. Mais il n'est pas malade, Il est servi à souhait, et à un ami outré de voir ses procédés odieux qu'ont les prêtres à son égard. Il répond tout doucement, baisant son crucifix, « Je ne suis pas digne de souffrir pour le Christ. Cette amertume m'est douce. » Et comme toujours, la croix se révèle merveilleusement féconde, et les énergumènes expropriés ont beau vouloir le compromettre, l'affluence à l'église Hier encore si mal famé, il n'y avait personne pour ainsi dire, augmente de jour en jour. Et là, le confessionnal de Don Palotti est littéralement assiégé. Est-ce qu'on lui ferme l'église sous le nez? Ben là, il part presque avec son confessionnal. Il est imperturbable. Et puis il s'arrange en passant avec toutes ses ouailles à l'église del Suffragio qui est tout près. Et finalement, ses bourreaux le mettent bel et bien à la porte. Et c'est alors que la Providence intervient. Puis à son insu, un de ses amis a informé un cardinal de ce qui se passe et le cardinal va voir le pape qui fait parvenir aux persécuteurs des ordres bien précis juste au moment où le pauvre recteur s'apprête à vider les lieux. Et son adversaire le plus implacable, l'ancien vice-recteur, va témoigner à son procès informatif pour sa béatification, puis il va dire « Jamais, c'est extraordinaire, cet homme s'est converti, ce prêtre, jamais il n'avait donné le moindre motif pour les mauvais traitements qui lui furent infligés. Il ne me parlait qu'avec le plus grand respect et la tête découverte, et à plusieurs reprises, il avait même essayé de me baiser la main. » Et ce prêtre s'est converti, lui qui en voulait tellement, à Don Palotti. Nous allons écouter quelques mesures du Miserere de Donizetti, interprété par le chœur et l'orchestre slovaque. Je dédie cette émission à plusieurs amis prêtres. J'ose pas les nommer, de saints prêtres qui m'encouragent, qui sont merveilleux, de très bons prêtres, dont l'un qui vient du Moyen-Orient. Don Palotti voyait grand, hein? Il voulait sauver toutes les âmes. Ce but grandiose réclame évidemment des moyens appropriés. Or, il vient de toucher du doigt l'insuffisance du clergé qui l'entoure. Dans cette paroisse difficile, où il a vécu 10 ans, et comme qualité, c'est terrible. Mais le nombre aussi des prêtres manque. Les prêtres seuls, se dit-il, dans leur paroisse, ne peuvent pas assumer la tâche de sauver le monde. Ils sont seuls. Il leur faut, et vite, des auxiliaires. Alors comment faisait l'Église au premier temps? Alors, tout brûlant des flammes, évidemment, de la Pentecôte au début de l'Église, eh bien, c'est très simple, qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'était dispensé de porter témoignage. Tous étaient apôtres. Les hommes, les femmes, les enfants. Les clercs, les prêtres, les laïcs. Alors, il se rend compte de plus en plus que la vocation chrétienne implique cet appel précis. Cette mobilisation générale, hein, dont je vous ai parlé mardi en vous parlant de la spiritualité des laïcs. Car il est le précurseur de l'action catholique. Don Vincenzo Palotti, ce saint prêtre de Rome. Don Palotti dit, pourquoi ce qui valait alors au début de l'Église ne vaudrait-il pas aujourd'hui? Pourquoi ne pas les enrôler, les laïcs, les enrôler tous pour sauver toutes les âmes? Pourquoi pas demander aux médecins, aux instituteurs, aux artisans, aux domestiques, et même aux valets de ferme, aux gros fermiers? Puis pourquoi pas aussi aux malades, aux prisonniers, aux mères de famille, puis aux enfants? Quelle offensive ne pourrait-on pas entreprendre, dit-il, avec des troupes aussi serrées?
Il y a beaucoup de bons chrétiens, mais ils sont un peu assoupis. Réveillons-les vite, se dit Don Palotti. Et tâchons de leur faire comprendre qu'ils sont responsables de l'univers. Aujourd'hui, ces outils, évidemment, ne nous surprennent plus. Les laïcs, aujourd'hui, risquent plutôt d'y être tellement habitués, tellement blasés de leur extraordinaire promotion. Mais du temps de Don Palotti, ce sont des idées révolutionnaires. L'apostolat semble être le monopole du clergé à son époque, et les laïcs sont un docile troupeau, comme on dit. Ils sont là pour se laisser conduire. Or, Don Palotti demande à chacun des comptes de son milieu. Et il comprend la charité comme une prise en charge très, très concrète des âmes qui sont insérées dans notre entourage. À la lettre, il est en avance de près d'un siècle. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il institue l'Action catholique. Et le nom même y est, son œuvre porte le titre significatif, pas tout à fait d'Action catholique, mais d'Apostolat catholique. C'est au début de 1835 que Don Palotti a 40 ans. Son œuvre entreprise en équipe vient de naître. Et bien vite, elle est en butte à des persécutions. Croyez-le, croyez-le pas. Tout d'abord, le nom de son œuvre est mis en cause. Apostolat catholique? Quoi? Alors le censeur, il y a des censeurs, qui s'effarouche, s'est empiété sur les droits de la hiérarchie, dit-on, les évêques, les dirigeants de l'Église. Don Palotti a beau expliquer que la collaboration des laïcs dans une stricte obédience aux directives de la hiérarchie ne fait qu'augmenter les effectifs des apôtres pour la conversion du monde, mais ses adversaires ne désarment pas, imaginez. Ils ont même pour eux certaines raisons valables. En voulant enrôler toutes les âmes dans une offensive universelle, ils semblent englober l'Église elle-même. Alors, s'il y a des laïcs qui ont tendance à ça, hein, ils veulent tellement gérer l'Église qu'ils veulent penser à la place du pape. Ça existe dans notre Église actuellement et c'est bien dommageable. Ça crée des tensions, des scissions. Un jour, dit-on, que solennellement, c'est ce qu'il dit, lui, l'Église va lui donner raison. Et on le sait, hein, l'Action catholique a été un splendide épanouissement de ses rêves les plus ardents. L'Action catholique dont on parle presque plus aujourd'hui, ça a été la promotion officielle de tous les laïcs au grade d'apôtre, sous les auspices de la hiérarchie. Hein. Il a fallu un siècle pour faire fleurir ce que Don Palotti a semé dans les larmes. Il était habité par une parole, « Caritas Christi urget nos ». Je me souviens, on nous disait ça souvent en latin quand j'étais jeune. « La charité du Christ nous urget, nous habite et nous rend les choses urgentes, quoi. » Don Palotti emprunte à saint Paul la devise de son œuvre. Comme saint Paul, il propose à ses disciples le Christ crucifié. L'apôtre n'est accrédité que par le signe de la croix, dit-il. Pourquoi? Parce que je suis bien d'accord avec lui, c'est la suprême preuve d'amour. C'est pas la croix comme victime qui calme les nerfs de son père, qui fâché, non. C'est la croix qui devient la preuve suprême de l'amour de Dieu pour nous. Car tout, en fin de compte, se ramène au grand commandement. Les fruits d'éternité, seul l'amour est la pierre de touche. À la veille de son ordination, je vous l'ai dit, hein, il a écrit « Je prie Dieu de me donner à moi et à tous dans le monde entier un amour ardent, et si possible infini. Hein. Seigneur, t'aimer infiniment ou mourir. » Et voici comment il trace l'idéal sacerdotal à des prêtres qui le suivent, qu'on appelle les paloptins aujourd'hui. Écoutez bien, ça c'est très surprenant, c'est presque un délire, le délire d'un saint plein d'amour. « Quoi que tu fasses, dit-il à ses prêtres, imite les esprits bienheureux. Ne médite que l'infini amour, ne prie que dans l'amour. Récite ton bréviaire, tout enflammé par l'amour infini. Célèbre les saints mystères, la messe, transformé en brasier d'amour, annonce dans l'amour la parole de Dieu, communique avec amour les sacrements d'amour. Oui, nourris-toi d'amour, désaltère-toi avec l'amour, repose-toi dans l'amour, et que chacune de tes pensées soit enflammée d'amour, que chacune de tes paroles chante l'amour infini, que chacun de tes actes soit transformé en amour. Marche dans l'amour, respire l'amour, meut-toi dans l'amour. Et ainsi, embrasé d'amour, pénétré d'amour, enivré d'amour, transformé en amour par l'amour infini, ô prêtre, reposant tout doucement dans l'amour, tu porteras avec toi la flamme vive de l'amour, tu raviras tous les cœurs d'amour pour l'amour infini. Don Palatti, quand on pense à sa vie, elle n'est que le trop-plein de son amour, un contemplatif né. Il finit par s'arranger à prier toujours et partout, il est avare de son temps. Il vit double, on peut dire. Il est sans cesse occupé, puis il prie sans cesse. On ne sait pas comment il fait. Ce n'est pas un saint triste. Dans sa chasse aux âmes, il a plus d'une ruse dans son sac. Il y a toutes sortes d'anecdotes savoureuses qui évoquent le souvenir d'un autre grand romain, saint Philippe Néri. Il fait des choses tellement bouleversantes que ça en est extraordinaire. Il va jusqu'à convertir quelqu'un qui est sur son lit de mort avec son pistolet qui est prêt à tuer un prêtre qui l'approche. Eh bien, il se transforme en vieille bonne femme avec un costume. Puis cette vieille bonne femme, la suivie de la maman puis de la sœur plus morte que vive, s'approche du lit de cet homme qui veut tuer le prêtre. Il se penche sur le malade puis lui dit doucement, il dit, je ne vous ennuierai pas. Je me mettrai dans un petit coin pour être à votre service. Et se disant, Don Palotti glisse sous l'oreiller sa médaille de Madonnina de la Madone et lui dit dans son cœur, c'est maintenant votre tour. Débrouillez-vous, Madonna mia. Et tous les deux, ils se débrouillent si bien que le lendemain matin, la famille trouve le malade dans les bras de Don Palotti qui l'a veillé toute la nuit, pleurant de joie et d'amour. La coiffe, puis le fichu que s'était mis sur la tête, se trouve bien rangé sur une chaise. Fantastique saint, merveilleux saint. Ah, Don Palotti est un thaumaturge aussi, les miracles sont nombreux. On l'a même vu lever des airs alors qu'il priait, comme plusieurs autres saints, comme sainte Thérèse d'Avila. L'avenir ne semble pas avoir pour lui de secret aussi. Il prédit à ses pénitents le jour de leur mort à une heure près. Il arrive au moment exact d'ailleurs, lorsqu'on a besoin de lui, soit pour guérir, soit pour aider à mourir. Lorsqu'il dit « Faisons la volonté de Dieu », ben la mort est proche. Lorsqu'il dit « Ayez confiance en la Madone », la guérison est sûre. Il suffit souvent d'une simple bénédiction avec sa Madonnine pour que les mourants recouvrent la santé. Puis il a aussi le don de bilocation comme Padre Pio et bien des saints aussi, l'archevêque de Milan, etc. À plusieurs reprises, on le voit assister des mourants. Au moment même où il confesse dans un autre quartier de Rome, et on a à ce sujet des témoignages sous la foi du serment, de gens très sérieux. Tous ses charismes sont au service des âmes et de ses pauvres. Il donne tout ce qu'il a. On l'appelle à Rome le père des pauvres. Lorsqu'il est au bout de ses ressources, ce qui arrive bien souvent, il s'en va mendier. Et les négociants, les marchands le connaissent bien. Il réussit à attraper toutes sortes de choses pour les pauvres. Parfois même, ses amis les riches se trouvent à sec, alors il recourt à des miracles. Il va multiplier l'argent qu'une comtesse a dans un petit coffret. Et elle est étonnée de voir cet argent qui s'est multiplié. Elle dit, « Mon père, comment est-ce possible ?» Puis il lui dit, « Chut, chut, à Dieu tout est possible. » Et maintenant, permettez-moi, au nom de la sainte obéissance, que vous n'en soufflerez mot jusqu'au jour de ma mort. Et combien de fois, Saint Vincent Palotti n'est pas rentré furtivement pour que personne ne le voie, pieds nus, puis en manches de chemise, car, vous savez, en route, il a fait un peu comme Maurice Zundel, il a distribué ses vêtements. Maurice Zundel faisait ça, il laissait son manteau en plein hiver, hein. À des pauvres. Alors il contracte sa dernière maladie comme ça parce qu'en plein hiver, il a donné son manteau à un malheureux puis il reste tout grelottant. Pendant des heures, à son confessionnal, il gît. Il est mort comme ça, à la lettre, au service des pauvres, à 55 ans. On pourrait écouter encore le Miserere, psaume 50, de Donizetti, interprété par le chœur et l'orchestre slovaque. Aujourd'hui, chose étrange, c'est la fête d'un Saint-Vincent, le même prénom, c'est un diacre et martyr qui a été torturé et mis à mort vers l'an 305 à Valence, en Espagne, avec son évêque Valère. Après avoir, comme diacre, fidèlement servi l'Église, dit le prion en Église que je vous invite à recevoir chez vous en vous abonnant le prion en Église mensuel. Vous aurez toujours la prière du jour pour prier en union avec le pape, les évêques, les prêtres, les missionnaires, les religieux, les religieuses et tous les millions de laïcs qui vont à la messe chaque jour. Aujourd'hui, à l'Évangile, Jésus dit, ou plutôt Saint Marc raconte au sujet de Jésus, « Jésus gravit la montagne, et il a appelé ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les esprits. » Eh bien, Vincent Paletti avait ce pouvoir. C'est un homme de très grand désir. Ses ambitions sont vastes comme l'univers, Don Vincent Paletti. Il prie simplement, « Mon Dieu, je vais vous donner aujourd'hui et toujours la gloire que doivent vous rendre toutes les créatures. Non seulement celles qui existent, mais aussi celles qui pourraient exister et qu'on empêche. » Et il ajoute, « Mon Dieu, sauvez toutes les âmes. À vous la gloire. À moi le mépris. Aux personnes qui viennent lui demander un petit conseil, mais un conseil de dire justement souvent, en faisant le signe de la croix, vous pouvez le faire avec moi, en faisant le signe de la croix, par moi-même, je ne puis rien. Avec Dieu, je peux tout. Par amour pour mon Dieu, je veux tout faire. » C'était un fameux exorciste que ce saint. Il délivre plus d'une fois des possédés de l'emprise diabolique. Vous direz que ça n'a pas de sens en fin de millénaire. Mais oui, ça existe toujours. Il lutte parfois pendant des heures dans un corps à corps implacable pour arracher telle âme aux griffes de l'enfer. Et les actes du procès de canonisation citent des cas qui font frémir. Je vous en raconterai pas. Si vous pouvez aller vers les actes de canonisation, ça existe dans des grandes bibliothèques. En lisant la liste de ses œuvres simplement alignées puis sans commentaire, on se demande comment une vie humaine, même surchargée, n'a pu y suffire. Quel saint! Or, Saint Vincent Paletti meurt dans la force de l'âge, à 55 ans, comme je vous ai dit, puis on est tenté de croire qu'il a fait vœu de ne jamais refuser aucune corvée. Tout le monde se l'arrache, il est partout. Il est étonnamment moderne aussi. Il se voue à la cause ouvrière, il organise des universités artisanales pour les cordonniers, les tailleurs, les cochers, les menuisiers, les maraîchers. Il s'efforce de développer leur culture générale, puis leur conscience professionnelle. L'ignorance, oh l'ignorance qui se répand de plus en plus dans notre Église, comme elle s'est répandue toujours à travers les siècles à certains moments, mais lui semble un des principaux obstacles à la foi. Donc, il combat l'ignorance. L'injustice sociale est à la base des grands remous révolutionnaires, exploités par des mauvais bergers, on le sait. Donc, il faut à tout prix combattre l'injustice sociale, se dit-il. Et là, où son influence ne suffit pas pour changer les structures, bien, il supplie par son immense et par son ardente charité. Quel prêtre! En ce temps-là, les tribunaux militaires procèdent avec une rigueur excessive, alors là, il va consoler les détenus. Il les guérit souvent. Il change leur âme. Ah, le confessionnal. On y trouve Don Paletti jour et nuit. Il confesse des cardinaux, des évêques, le pape lui-même, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais surtout les pauvres gens qui viennent à lui de toutes parts, et lorsque survient un cardinal, parmi ses pénitents, hein, le pauvre cardinal, malgré tous ses beaux atours, doit faire la queue, puis attendre patiemment son tour. Au tribunal du Christ, dit-il, il n'y a pas de privilégiés. Ou plutôt si, il y en a, et ce sont les pauvres pécheurs. Son amour pour les pécheurs est vraiment sans bornes. Et il va à leur recherche dans les quartiers les plus sordides. S'occupe de Saint-Vincent-de-Paul. Il est fondateur, puis père de la congrégation des Palottins. Il va continuer son œuvre. Pour Don Palotti, la joie est le thermomètre de l'amour. La joie dans la croix, comme je vous ai dit, pleine d'amour. Voilà l'épanouissement de la vertu royale qui nous rend tributaires, participants du cœur même de Dieu, dit-il. Pas de vœu si ce n'est le lien de toute perfection, dit-il. Centre de rayonnement, point de convergence de toutes les vertus. L'amour. Il est très facile d'être un palotin médiocre parce que la règle ne dit à peu près rien sur ce qu'il faut faire. Il a tout donné. Les temps sont durs, l'Église est balayée par le grand vent révolutionnaire. On s'attaque aux prêtres. Le pape est débordé, doit fuir à Gaète. On crie dans les rues, mort au curé, mort au curé. Ah, c'est ce qu'on crie dans les rues là-bas. Dans les couvents, les révolutionnaires font la chasse aux prêtres, puis Don Palotti échappe par miracle. C'est épouvantable. Depuis 7 ans, il sent sa fin toute proche. Et pendant l'octave de l'Épiphanie, bien, il organise dans la belle église de Sant'Andrea delle Valle des fêtes écuméniques. Oui, écuméniques, c'était exceptionnel. Puis il prend froid au confessionnal après avoir donné, selon son habitude, comme je vous ai dit tout à l'heure, son manteau à un pénitent nécessité. Alors il traîne quelques jours, puis il s'alite avec une grave pleurésie, puis les médecins déclarent tout de suite qu'il n'y a aucun espoir, et c'est... Les jeunes prêtres qui l'ont suivi ont énormément de chagrin, ils demandent un miracle, et il en a fait tellement de miracles, pourquoi qu'il ne se guérit pas lui-même? Puis il leur répond, « Laissez-moi partir, je ne suis qu'un serviteur inutile, je suis un obstacle pour l'œuvre. Après ma mort, le Seigneur la bénira. » Et lorsqu'on lui porte le Saint-Sacrement, le corps du Christ, il ouvre tout grand les bras, puis il dit, « Mon Jésus, bénissez toute la congrégation. » Oui, une bénédiction de bonté, une bénédiction de sagesse. Alors il n'a plus la force d'ajouter, selon son habitude, une bénédiction de force. Il est vraiment moderne dans un sens, cet homme. Et c'est le lendemain, la fête des épousailles de la Sainte Vierge, puis il dit, quelle belle fête au ciel, quelle belle fête. Il n'est que juste que la Madone, comme on dit en Italie, qu'il a tant aimé, et si humblement servi, il vient de le chercher, un jour qui lui est dédié, puis il s'éteint tout doucement, après une brève agonie, le 22 janvier 1850, et tout de suite, il y a des miracles, et le peuple déclare saint dès sa mort. Et depuis, mais sa gloire et son actualité n'ont cessé de grandir. Il est en somme le père de l'action catholique. C'est Pie XI qui l'a dit. Puis le cardinal Pellegrinetti, oh, je vous dis ça en terminant, dans un bel hommage ému, quel bon cardinal ça devait être, il a dit, il a fait tout ce qu'il a pu, et ce qu'il n'a pu faire, eh bien, il l'a fait aussi. Je trouve ça merveilleux. Au ciel, les saints ne chôment pas. Vous savez, invoquez-le, invoquons-le. Prions pour nos prêtres, pour qu'ils soient des saints à l'exemple de Saint Vincenzo Palotti. Prions-le, et prions pour nos prêtres qui sont souvent si seuls, si abandonnés, et qui ont beaucoup de problèmes, nos prêtres. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Aimons-les,